Bonsoir à tous, nous allons commencer. Nous devons procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance et je vous propose Elvire Tohoki. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je vous fais état des procurations reçues. Diane Diaz, donc, qui est une bonne bronchite, est excusée et elle m'a donné procuration. René Sauvera a donné procuration à Patricia Roche. Jean-Paul Lehner a donné procuration à Christine Winkelmann. Françoise Virlouvet a donné procuration à Richard Bancorsini. Christophe Lacroix a donné procuration à Sylvain Gilles. Alors nous avons eu un remerciement. Au nom de toute l'équipe du compteur de Mathilde, je tiens à vous adresser un immense merci pour votre disponibilité, votre soutien et la mise à disposition de l'espace René Roussière pour notre soirée Patron Incognito. C'était sur M6. Grâce à vous, nous avons pu accueillir plus d'une centaine de collaborateurs et partager un moment exceptionnel autour de la diffusion de l'émission. Votre réactivité, votre accompagnement technique et votre mobilisation ont largement contribué à la réussite de cette soirée très attendue. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques ? Donc, s'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Et je passe à l'ordre du jour. Budget principal, décision modificative numéro 2. Un rapporteur, eh bien c'est moi qui vais rapporter. Je signale que nous avons eu un petit souci technique de tout simplement de copier-coller, parce que certains d'entre vous ont peut-être eu décision modificative numéro 1. Enfin, il y avait une ou deux petites erreurs. C'est juste une histoire de copier-coller. Et il s'agit bien de la décision modificative numéro 2. Conformément à l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 11 avril 2025 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Vu l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 8 avril 2025 portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigue pour l'exercice 2025, vu les différentes réalisations effectuées en 2025 et celles en cours, vu l'avis de la commission des finances réunie le 24 septembre 2025, il est demandé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 2 donc, du budget principal de la commune tel qu'annexé. Voilà, donc il s'agit d'une décision modificative numéro 2 qui intervient pour aborder le chapitre 12, les dépenses de personnel de 33 000 euros. Je précise, parce que ça me paraît une précision vraiment importante, que cette augmentation provient de décisions gouvernementales intervenues en cours d'année budgétaire. Alors on a beau prévoir une certaine provision, mais on ne peut pas prévoir aussi précisément tout ce que le gouvernement va décider d'imposer en charge supplémentaire aux communes. Et ça a été le cas, puisque le gouvernement a décidé une augmentation de 3 points de la cotisation, enfin des charges patronales donc de la commune en matière de retraite, donc cotisation à la CNRACL, ces 3 points donc, ont provoqué une dépense supplémentaire de 55 000 euros. Et la deuxième mesure gouvernementale a consisté à augmenter l'indemnité de précarité, c'est-à-dire ce que l'employeur doit aux personnes titulaires de petits contrats de courte durée qui interviennent pour faire face à des remplacements. Là encore, c'est une dépense qui est de 6 000 euros supplémentaires par rapport aux prévisions du budget principal, d'où la décision modificative. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, dans ces conditions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, abstention du groupe Ensemble pour Camaret, délibération adoptée à la majorité. Dossier numéro 2, admission en valeur des titres irrécouvrables. Le service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine expose qu'il n'a pas pu procéder au recouvrement des titres ci-dessous en raison des motifs énoncés et qu'en conséquence, la commune se doit de les présenter au conseil municipal pour décision d'admission en non-valeur dans le budget communal 2025. Il est rappelé qu'il appartient au comptable public de procéder sous contrôle de l'État aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. Conformément à l'état des titres irrécouvrables transmis par le service de gestion comptable de Vaison, arrêté à la date du 15 septembre 2025, le montant des titres à admettre en non-valeur sur le budget communal s'élève à 127,60 euros. Donc voilà, vous avez les personnes qui sont concernées. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le décret du 29 décembre 1962 portant un règlement général sur la comptabilité publique, vu le décret du 29 décembre 1992 indiquant que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées par le service de gestion comptable de Vaison dans les délais légaux, vu le décret du 29 décembre 1992 indiquant que lorsqu'elles sont irrécouvrables, les créances de l'État mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 suivisées sont admise en non-valeur par l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recette. Tout ça pour pas grand-chose, mais bon. Vu l'état des produits irrécouvrables dressés par le service de gestion comptable de Vaison, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l'objet d'un recouvrement en raison des motifs évoqués par le service de gestion comptable, il est demandé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres irrécouvrables pour la somme globale de 127,60 euros. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2025 au compte 6541 au chapitre 65. Bon, c'est quelque chose qui revient chaque année, avec des montants différents, mais relativement minimes. Y a-t-il des questions néanmoins ? Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 3. Garantie d'emprunt à hauteur de 50% accordée à la Société pour le développement de l'habitat dans le cadre de l'opération Le Clos Gaspard à Camaret-sur-Aigue. La Société pour le développement de l'habitat, SDH, va procéder à la constitution d'11 logements, à la construction d'11 logements situés sur la commune de Camaret, 19 lotissements Le Clos Gaspard. Pour financer cette opération, SDH a sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations les prêts suivants. Un prêt locatif aidé d'intégration, travaux d'un montant de 252 000 euros au taux de 2% sur 40 ans. Un prêt PLAI foncier d'un montant de 97 000 euros au taux de 2% sur 50 ans. Un prêt locatif social enveloppe PLS délai 2025 d'un montant de 110 000 euros au taux de 3,55% sur 40 ans. Un prêt PLS foncier enveloppe PLSDD 2025 d'un montant de 36 000 euros au taux de 3,51% sur 50 ans. Un prêt locatif à usage social, travaux d'un montant de 522 000 euros au taux de 3% sur 40 ans. Un prêt plus foncier d'un montant de 176 000 euros au taux de 3% sur 50 ans. Les caractéristiques de ces 6 lignes de prêt sont détaillées dans le contrat de prêt. La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2305 du Code civil, vu la demande formulée par la Société pour le développement de l'habitat, vu le contrat de prêt signé entre la SDH, signé après l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations relatif au prêt PLAI, PLS et plus, vu la commission d'avis des finances en date du 2 décembre 2025, il est demandé au Conseil municipal d'accorder une garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt en montant total de 1 193 000 euros souscrits par la Société pour le développement de l'habitat auprès de la Caisse des dépôts selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt constitué de 6 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. De préciser que la garantie de la collectivité est accordée pour la totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, la Société pour le développement de l'habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. D'autoriser M. le maire à signer la convention relative à cette garantie d'emprunt et tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, M. Normani. Excusez-moi, prenez le micro, oui.
Voilà, ça va marcher. Oui, il est noté, le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération et je ne l'ai pas reçu. Alors moi, moi je le suis par internet
Et il n'est pas. Effectivement, pour les dossiers reçus par internet, je crois qu'il était envoyé par internet. Ensuite, il était comme les gros dossiers, pour ne pas faire des copies inutiles, on le met en consultation à l'accueil et on en a confié un, je crois, même certainement à M. Savin, à la commission des finances.
Ok, merci, vous venez de me le dire, mais j'ai déjà oublié.
Merci. Pas de souci. D'autres interventions? Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 4. Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section investissement 2026 dans les limites du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2025. Alors, monsieur le maire expose que l'article L612-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 29 décembre 2012, article 37, dispose que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 30 avril, compte tenu de l'année de renouvellement des organes délibérants, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Donc vous avez le tableau. Je vous fais grâce de la lecture in extenso. Le conseil municipal s'engage à reprendre ses crédits ouverts par anticipation au budget primitif de la commune. Vu l'avis de la commission des finances réunie le 2 décembre 2025, il est demandé au conseil municipal d'accepter les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus.
Un petit commentaire.
Y a-t-il des interventions? C'est suffisamment clair? Eh bien, écoutez, alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Ensemble pour Camaret, adopté à la majorité. Dossier numéro 5, modification de la convention de mise à disposition des salles de l'espace René Roussière de la ville de Camaret. Oui, donc oui, mais. D'ailleurs, c'est toi qui dois rapporter, en fait.
Ah bon?
Oui, en fait, ces trois dossiers ont la même logique, c'est de repréciser les cautions qui existaient déjà, de les unifier et d'expliquer dans quel cadre nous encaisserons les cautions, que ce soit pour la location des salles, pour la propreté et le ménage de ces salles lorsqu'elles sont mises à disposition, la mise à disposition de véhicules municipaux et leur restitution en bon état et en bon état de propreté également, et la location du matériel, la location, le prêt du matériel communal, chaises, tables, etc. aux particuliers comme aux associations, on fixe des cautions, on définit comment ces cautions sont utilisées, c'est-à-dire que le Trésor public nous a redit la procédure, c'est-à-dire qu'une caution, on prend un chèque. S'il y a un problème, on encaisse la totalité du chèque, on fait les travaux, le remplacement ou l'entretien qui n'aurait pas été respecté par le preneur, et on rend le reliquat à la personne qui nous a confié la caution. Voilà. Donc ça, ces délibérations permettent de fixer ce cadre-là, les différentes interventions de ménage, le coût auquel on les facturera. Forfaitairement, ce sont des agents municipaux, selon le coût que nous payons, si ce sont les entreprises prestataires. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?
Une petite question. Alors, pour les véhicules, vous prêtez la mairie prête des véhicules, sous quelles conditions, à qui, comment?
Les conditions?
Oui, à qui prêtez-vous les véhicules municipaux?
Aux associations, avec des conditions, avec un contrat, et à respecter, que ce soit la propreté, rendre le véhicule avec le plein, faire ce qu'il y a à faire pour que tout se passe bien.
Et au niveau des assurances, vous faites comment?
Il y a une convention qui est faite. Oui. Mais non, on n'est pas vocation à faire des ménagements ou autre chose, quoi.
C'est essentiellement les minibus. Hein.
Oui, voilà.
Encore moins aux élus.
Merci.
Écoutez, alors s'il n'y a pas d'autres interventions, ben je mets aux voix les délibérations numéro 5, 6 et 7. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 8, renouvellement de la Convention territoriale globale, rapporteur Sylvette Gilles.
Depuis 2020, la ville de Camaret-sur-Aigle et la Caisse d'allocation familiale du Vaucluse collaborent dans le cadre de la Convention territoriale globale, la CTG, un outil stratégique destiné à coordonner et à renforcer les politiques locales en faveur des familles et des habitants. Cette convention repose sur une coopération étroite et durable, consolidée par des engagements réciproques pour répondre aux besoins du territoire. La CTG, actuellement en vigueur, arrive à échéance. Son renouvellement s'inscrit dans la continuité du travail engagé depuis 2020 et traduit une volonté commune de consolider les actions prioritaires. Petite enfance, enfance-jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits et inclusion sociale. Les objectifs, donc la CTG constitue un cadre stratégique et opérationnel permettant d'élaborer un diagnostic partagé du territoire de la CCAOP, de définir les priorités d'intervention adaptées aux besoins des habitants, de coordonner les acteurs locaux et renforcer la cohérence des actions, de soutenir financièrement et méthodologiquement la collectivité dans la mise en œuvre de projets, de garantir l'accès de tous les habitants aux services et équipements, de suivre et d'évaluer la qualité et l'impact des actions menées. Le renouvellement de la CTG permet de confirmer ses ambitions tout en tenant compte des évolutions démographiques, sociales et économiques du territoire. Le bilan 2020-2025, des avancées concrètes. Le déploiement du lieu d'accueil enfants parents, le LAEP, sur l'ensemble du territoire. L'organisation de formation pour les agents afin d'améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap. Le renforcement de l'accès aux droits grâce à des services publics itinérants et rester au plus près des usagers éloignés. Démarche de renouvellement. Afin de préparer la nouvelle CTG, la commune et la CAF ont engagé la mise à jour du diagnostic territorial partagé, incluant notamment les données sociales, les besoins des familles, l'offre existante et les zones de fragilité. Des comités de pilotage avec les services municipaux et les partenaires locaux. La définition d'axes de travail prioritaires pour la période à venir, avec l'intégration d'une clause de revoyure afin d'adapter les orientations après les prochaines élections municipales, garantissant une convention évolutive et concertée. Ces travaux ont permis de dégager des orientations communes cohérentes avec les politiques publiques locales et les engagements nationaux de la branche famille. Les axes stratégiques de la future CTG. La nouvelle CTG prévoit de concentrer l'action publique autour des axes suivants. Petite enfance, équilibre de l'offre d'accueil, soutien aux modes d'accueil existants, accompagnement et orientation des familles. L'enfance et jeunesse. Amélioration de l'accès aux loisirs éducatifs. Mise en place d'une politique co-construite en direction des 16-20 ans. Pour des jeunes impliqués et pas seulement concernés, formation, mobilité, la parentalité, le renfort du LAEP itinérant, accompagnement des parents dans toutes les étapes de la vie familiale, l'accès aux droits, le maintien de l'espace France Service itinérant sur les 8 communes du territoire, prévention du non-recours, information des usagers, accompagnement individuel ou collectif. Et l'harmonisation des postes de coopération, le pilotage général de la CTG, le renforcement du réseau partenarial et la participation des habitants dans les actions. Ces orientations pourront être adaptées au fil de la mise en œuvre en fonction des besoins observés et des partenaires mobilisés. Les engagements et modalités du partenariat. La reconduction de la CTG formalisera un partenariat stratégique et durable reposant sur des engagements réciproques entre la CAF de Vaucluse et la commune de Camaret, des moyens d'accompagnement technique et financier, des modalités de pilotage, instance, fréquence des réunions, suivi d'indicateurs. La durée de la convention, 5 ans, avec clause de revoyure après les prochaines élections municipales pour ajuster les orientations, les conditions de révision ou d'adaptation en fonction des besoins du territoire. La signature de cette convention permettra à la commune de Camaret de poursuivre un partenariat solide, structuré et évolutif, garantissant la mise en œuvre des politiques sociales cohérentes et adaptées. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'action sociale et des familles, vu l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF, vu la convention d'objectifs et de gestion, COG, arrêtée entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales, vu la délibération du numéro 2021 d'Elib 59 approuvant la signature de la CTG 2021-2025 avec la CAF de Vaucluse, vu le projet de convention territoriale globale 2026-2030, considérant l'importance de la CTG en tant qu'outil stratégique permettant de coordonner et de renforcer les politiques locales en faveur des familles, de la petite enfance, de l'enfance jeunesse, de la parentalité, de l'animation de la vie sociale et de l'accès aux droits, considérant la nécessité de poursuivre un partenariat structuré avec la CAF de Vaucluse afin d'accompagner le développement des services et actions répondant aux besoins des habitants, considérant les travaux menés conjointement avec la CAF pour actualiser le diagnostic territorial, définir les enjeux prioritaires et établir les orientations stratégiques de la nouvelle CTG, considérant l'avis de la commission jeunesse en date du 2 décembre 2025, il est demandé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de la CTG avec la caisse d'allocation familiale de Vaucluse, couvrant l'ensemble du territoire intercommunal de la CCAOP pour une durée de 5 ans à compter de sa signature, d'autoriser Monsieur le maire à signer la CTG ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre, à son suivi, à son évaluation, d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération et tout document afférent, afin de bénéficier des nouvelles modalités de financement, le bonus territoire CTG, les crédits nécessaires et la mise en œuvre des actions inscrites de la CTG seront inscrits au budget communal dans les chapitres correspondants.
Merci. Y a-t-il des interventions ?
Préciser donc que c'est une convention qui a une dimension intercommunale puisque depuis avant nous avions les contrats enfants jeunesse et depuis la précédente période on était entré dans la convention territoriale globale qui théoriquement doit être intercommunale. Or l'intercommunalité n'a pas la compétence enfants jeunesse, donc l'intercommunalité fait partie des partenaire de la convention territoriale globale, mais c'est la commune de Camaret-sur-Aigle qui est coordonnatrice par l'action de son coordonnateur enfant-jeunesse, M. Bricourt, qui fait un travail avec nos services absolument remarquable sur cette convention, à la fois pour la commune de Camaret, mais aussi pour un travail qui est reconnu par les autres communes et qui permet vraiment d'avancer sur tous ces dossiers qui concernent la petite enfance, l'enfant-jeunesse, mais également sur, comme l'a dit l'adjointe, le handicap et d'autres thématiques qui bénéficient à tous les administrés. Donc ça méritait d'être souligné. On a un travail très performant des services de la commune de Camaret et du coordonnateur Wilfried Bricourt.
Merci. Je peux mettre aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 10-9. Bail de rétrocession du droit de pêche avec la Fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, rapporteur Elvire Théoki.
Par délibération numéro 2016 délib 88 en date du 20 octobre 2016, le maire a été autorisé à signer le renouvellement d'un bail de pêche pour une durée de 5 ans avec l'association Pêche Passion de l'Aigle Camarétoise. Arrivé à son terme, il devient nécessaire de renouveler le bail de rétrocession du droit de pêche afin de faire appliquer la loi pêche et la police de l'eau. En effet, l'émission d'une AAPPMA définie par le code rural sont la surveillance de la pêche, la négociation et l'exploitation des droits de pêche au profit d'un grand nombre de pêcheurs, la gestion piscicole et le repeuplement, ainsi que la protection des espèces et du milieu aquatique. Les parcelles concernées par le bail de rétrocession sont situées au quartier Sablas et cadastrées section A, numéro 1996, 1999, 1994, 2000, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 à section AA numéro 1. La commune est en effet propriétaire de 16 035 mètres de berge de l'Aigle, 4 245 mètres entre les parcelles cadastrées section A 1996 et A 2014, quartier Sablas à l'ouest de la RD 43. 11 790 mètres à la parcelle cadastrée section AA1, quartier Sablas Est, à l'est de la RD 43 et à l'ouest de l'ancienne voie départementale, ancien pont de l'Aigle. L'Aigle est un cours d'eau non domanial, à l'exception de son débouché en amont dans le Rhône sur 6 km, où la rivière appartient au domaine privé de l'État. Les propriétaires riverains ont droit de pêche, c'est un droit accessoire de leur droit de propriété sur le lit de la rivière et jusqu'au milieu du cours d'eau. Ils ne sont pas propriétaires de l'eau ou des poissons, mais seulement du lit. Cela implique d'assurer l'entretien des berges et éventuellement les travaux dans le lit même du cours d'eau, article L232-1 du Code rural. Aussi, les propriétaires peuvent confier au AAPPMA cette obligation en contrepartie de laquelle les associations récupèrent le droit de pêche. Vu le nouveau projet du bail de rétrocession, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la signature du renouvellement du bail de pêche pour une période de 12 ans à titre gratuit avec la Fédération du Vaucluse pour la pêche et la protection en milieu aquatique.
Merci. Y a-t-il des questions ? Et alors, dans ces conditions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 10, communauté de communes Aigouvaise-en-Provence, modification des statuts, transfert du siège. Vous, le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5211-20, vous, les statuts de la communauté de communes Aigouvaise-en-Provence, considérant que la communauté de communes Aigouvaise-en-Provence s'est dotée d'un nouveau siège administratif situé 802 avenue Fernand Gonnet à Camaret et qu'elle a pris possession des lieux le lundi 15 septembre 2025, considérant la nécessité pour les communes membres d'approuver le transfert du nouveau siège administratif de la communauté de communes et d'émettre un avis pour toute modification relative au statut de CCOP, il est demandé au conseil municipal d'approuver le transfert du nouveau siège administratif de la CCOP et d'approuver les nouveaux statuts de la CCOP. Voilà, bon, c'est quelque chose qui n'est pas qui est simplement administratif. Je vous indique que, d'ailleurs, ces nouveaux locaux de la CCOP seront inaugurés en même temps que les vœux de la CCOP, donc au mois de janvier, pour une date qui m'échappe pour le moment et qui me reviendra peut-être. Y a-t-il des questions, des interventions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11. Avis sur le dossier de demande d'autorisation environnementale relative à la construction d'une nouvelle station d'épuration intercommunale sur la commune de Camaret. La mise à jour du schéma directeur intercommunal d'assainissement a conclu que les ouvrages de la station d'épuration de Camaret étaient vieillissants. Le scénario de la réhabilitation n'a pas été retenu et la communauté de communes Aigouvaise-en-Provence a décidé la reconstruction de la station. Cette opération est soumise à la demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L181-1 et suivant du Code de l'environnement. Une enquête publique s'est déroulée du 17 octobre 2025 au 17 novembre 2025 inclus. Conformément à l'article R181-38 du Code de l'environnement, le conseil municipal doit émettre un avis sur le dossier de demande d'autorisation environnement. Par arrêté en date du 18 décembre 2024, le permis de construire a été accordé. Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le dossier de demande d'autorisation environnementale relative à la construction d'une nouvelle station d'épuration intercommunale sur la commune de Camaret et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des interventions ? Donc, vous l'avez bien compris, la communauté de communes va refaire une autre station d'épuration sur le même site, à côté de l'ancienne. Et l'ancienne va être démolie. Et ensuite, nous allons avoir une station d'épuration d'un nouveau type, beaucoup plus portée sur la mise en valeur de la biodiversité, la protection de l'environnement, voire la réutilisation des eaux usées traitées. Même si, à ce jour, on ne sait pas encore qui va avoir en charge de la construction de la dite station, puisque les marchés n'ont pas encore été attribués. Voilà. Mais ça va être un très très beau projet et une excellente chose pour la commune. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 12. Approbation du règlement de la voirie communale, rapporteur Hervé Royac.
Le règlement de voirie a pour objet de définir les règles d'accès, d'occupation et de travaux sur le domaine communal de la commune de Camaret. Les dispositions de ce règlement ne font pas obstacle aux autres règles, règlement de publicité, règlement de terrasse et autres mobiliers urbains, s'appliquant au domaine public communal. Il est rappelé que le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Le règlement de voirie fixe les modalités administratives et techniques applicables aux travaux exécutés sur le domaine public communal, aux droits et obligations des riverains et d'occupation du domaine public. En vertu de ses pouvoirs généraux de police, le maire doit veiller à assurer la sûreté et la sécurité du passage dans les rues, voies communales et plus généralement sur l'ensemble du domaine public communal. Au titre de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine communal, le conseil municipal doit assurer la conservation du domaine public et privé communal conformément au texte en vigueur. Pour ce faire, le document comprend les conditions administratives, techniques et financières d'exécution des travaux avec emprise du domaine public sur les voies publiques et privées communales ainsi que leurs dépendances, les principaux droits et obligations des riverains et les modalités d'exécution des travaux sans emprise sur le domaine public ou travaux dits aériens, les accès charretiers, les eaux pluviales, échafaudages, grues, bennes, déménagements. La redevance d'occupation du domaine public et sa tarification. Le présent règlement s'applique aux voies publiques communales et par extension aux voies privées appartenant à la commune et ouvertes à la circulation publique sur la commune de Camaret-sur-Aigle. Les espaces tels que cours, espaces clos et jardins limités par des constructions, ruelles et impasses non reversées au domaine public sont astreints aux dispositions générales qui réglementent la voirie publique. Il est donc demandé au Conseil d'approuver le règlement de la voirie communale que vous avez en pièce jointe. C'est quelque chose qui est officiel aujourd'hui, sur lequel on peut s'appuyer pour faire les recommandations nécessaires.
Merci. Y a-t-il des interventions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13, modalité d'attribution et d'usage des avantages en nature au personnel communal, rapporteur Antonio Méga.
L'article 34 de la loi numéro 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et qui a modifié le code général des collectivités territoriales et donné un fondement juridique au versement des avantages en nature. Si vous permettez, chers collègues, d'allons passer tous les visas et en fait on va plutôt faire un résumé de en quoi correspond cette délibération. Donc nous allons voir les points de l'avantage en nature qui correspond au repas, l'avantage en nature du logement, l'avantage en nature concernant le véhicule, l'avantage en nature l'outil issu des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Donc, à ce jour, la commune de Camaret-sur-Aigle met à disposition des agents dans le cadre de leurs activités professionnelles concernant le NTIC. Donc, il est demandé au conseil municipal directement, on va aller à la conclusion, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de l'attribution de l'avantage en nature repas du personnel communal concerné, ATSEM, personnel de restauration, personnel de l'animation, personnel de la crèche. Autre personnel, dès lors que les nécessités de service et les contraintes correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis favorable préalable de la Direction générale des services. D'autoriser l'attribution d'un logement gratuit pour nécessité de service pour le gardien de l'espace René Roussière et du complexe sportif. D'autoriser l'utilisation à titre professionnel des véhicules de service et les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC dans les conditions ci-dessus, sans que cela considère comme des avantages en nature. De préciser que le montant de référence pour le calcul de ces avantages en nature évoluera conformément au montant annuel défini par l'URSSAF. D'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à la présente délibération, de prévoir les crédits nécessaires au budget des exercices en cours et suivants, au chapitre 012, charges du personnel et frais assimilés, aux articles et fonctions concernés.
Merci. Y a-t-il des interventions? Bon, ça a été vu déjà au comité social territorial. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 14, liste des emplois et des conditions d'occupation des logements de fonction, rapporteur Antonio Miga.
Si vous permettez, chers collègues, le dossier 14 correspond au développement du dossier vu précédemment, notamment sur le logement de fonction. Comme vous le savez, cela concerne simplement que le gardien de l'espace René Roussière et du complexe sportif, 6 allées des sports, à Camaret-sur-Aigle. Donc l'obligation liée à l'octroi du logement, c'est la sécurité, l'entretien et le bon fonctionnement des installations qui exigent une proximité, une disponibilité permettant une réactivité efficace dans le service. Donc il est demandé, si vous permettez, au conseil municipal d'approuver la mise à disposition gratuite d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service dans les conditions définies ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document concernant ce dossier, d'inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices en cours et suivants au chapitre 012, charges du personnel et frais assimilés aux articles et fonctions concernées.
Merci. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 15. Attribution de l'indemnité de maniement de fonds. Rapporteur Antonio Miga.
Comme vous avez pu voir, le dossier est assez complet. Alors, si vous permettez, on va directement aller à la synthèse. Je pense que vous avez tous reçu le document. Donc, il est demandé au conseil municipal d'instaurer l'indemnité de maniement de fonds de telle que présentée ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à fixer par arrêté municipal le montant de l'indemnité versée aux agents concernés dans le respect des conditions fixées ci-dessus, de prévoir et d'inscrire les crédits correspondants au budget, de préciser que les dispositions de la délibération prendront effet au plus tôt à la date de la transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non-rétroactivité d'un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'État dans le département.
L'essentiel de ces délibérations, c'est que désormais le RIFSEP peut être cumulé avec l'indemnité de maniement de fonds. Y a-t-il des interventions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16. Révision et mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel, c'est-à-dire le RIFSEP, rapporteur Antonio Miga.
Mes chers collègues, vous avez vu le super dossier, je pense que vous l'avez tous consulté. C'est simplement une réactualisation, une mise à jour de l'indemnité concernant nos agents. Donc on va aller directement à la conclusion, si vous permettez. Puis comme ça, j'aurai ma voix qui sera un peu plus soulagée. Je vous remercie. Donc il est proposé au conseil municipal d'instaurer au sein de la commune les nouvelles modalités définies ci-dessus du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Le RICEP pour les agents de la commune décrit ci-dessus stagiaires, titulaires et contractuels de droit public. De permettre la modification des crédits afférents au crédit global de chaque prime en fonction de l'évolution du tableau des effectifs, ainsi que la revalorisation des barèmes ou taux applicables aux fonctionnaires d'État en fonction des textes en vigueur sans nouvelle délibération. De dire que la part principale du RICEP IFSE sera désignée sous le nom d'indemnité de technicité et d'expertise ITE et que la part facultative, le CIA, sera nommée prime d'initiative de résultat et d'assiduité, donc la PIRA. d'autoriser le versement des sommes afférentes à l'ITE par mensualité et le cas échéant afférentes, du moins celles afférentes au PIRA annuellement en décembre. De préciser que les primes susceptibles d'être attribuées dans le cadre du régime indemnitaire ne sont pas acquises de droit et peuvent être modulées. Elles pourront être revues à la baisse, à la hausse ou ne subir aucune modification selon les modalités établies ci-dessus. Le maire est chargé de l'application des différentes décisions de cette délibération par le biais d'arrêtés individuels d'attribution. De prévoir les crédits nécessaires au budget primitif, chapitre 012, charges de personnel, frais assimilés. De préciser que les dispositions de la libération prendront effet au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de la légalité au regard de principe de non-rétroactivité d'un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'État dans le département.
C'est également cette révision du RIFSEPT, quelque chose qui a été vu en comité social territorial au mois d'octobre dernier. Néanmoins, y a-t-il des interventions? Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 17. Modification du tableau théorique des effectifs. Rapporteur Antonio Omega.
Il est court, merci, vous serez indulgent. Vu le code général des collectivités, vu le code général de la fonction publique, vu la délibération du 30 septembre 2025 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Cabaret-sur-Aigle, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, considérant que l'intégration au tableau théorique des avancements de grade, considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2025 au chapitre 012, il est demandé au conseil municipal d'accepter l'intégration des avancements de grade, des réintégrations et des recrutements, d'accepter la création de postes suivants. Un poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet et d'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Merci. On dit les questions. Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 18. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Rapporteur Anthony Méga.
Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la fonction publique et notamment son article L332-23, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, considérant que ces agents exerceront, à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale et d'adjoint technique territoriale, oui, la proposition de Monsieur le maire de créer ces postes d'adjoint d'animation tels que d'adjoint technique territorial. Donc il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement temporaire. Un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service technique, pôle espace vert. 4 postes d'adjoint d'animation territoriale à temps complet pour le service enfance jeunesse crèche. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et enfin, rapport numéro 19. Rapport social unique 2024. Rapporteur Antonio Miguel.
L'article 5 de la loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique a instauré l'obligation pour les collectivités locales d'élaborer un rapport social unique, le RSU. Pour le 1er janvier 2021, depuis le 1er janvier 2021, pardon, conformément aux dispositions du décret numéro 2020-1493 du 30 novembre 2020, relatif à la base des données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique, ce rapport doit être réalisé chaque année. Le RSU rassemble des données à partir desquelles sont établies les lignes directrices de gestion. Le RSU est établi autour de 10 thématiques: emploi, recrutement, parcours professionnel, formation, rémunération, la santé, sécurité au travail, organisation du travail, amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, l'action sociale et la protection sociale, le dialogue social, la discipline. La synthèse du RSU 2024, 6 juin, est une photocopie du personnel de la ville de Camaret-sur-Aigle au 31 décembre 2024. Elle apporte une vue d'ensemble des caractéristiques du personnel et permet de déceler les axes de progrès et les points forts de la collectivité. Le RSU 2024 a été présenté aux membres du CST le 17 novembre 2025. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport social unique pour l'année 2024.
Merci. Y a-t-il des interventions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Vous avez eu l'état des déclarations des IND ainsi que l'état des décisions du maire. Est-ce que cela appelle de votre part des questions ou des interventions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ? Monsieur Bancorsini.
Juste une remarque. Concernant l'abribus qui se trouvait dans le stade de motoball, il a été enlevé. Je me demandais si vous aviez l'intention de le remettre.
Il n'avait plus vocation à être utilisé. C'est pour ça qu'il a été enlevé.
D'accord.
Oui. Très bien. Pas d'autres questions diverses ? Alors, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, et de vous inviter, comme d'habitude, au verre de l'amitié. Le prochain conseil, la date n'est pas encore fixée, mais ce sera début février.